Décryptualité, semaine 7, année 2022. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, au sommaire, nous avons 4 articles que tu as remontés. ZDNet France, Libre Express, Pillage par les GAFAM, Hackathon, Handicap, OpenStack et Smile Alterway, un article de Thierry Noisette.
Alors, ce sont des brèves hein, qui parlent un petit peu de différents sujets. Thierry Noisette, il a tendance à faire un article par semaine au moins. Bah là, il les a regroupés. Peut-être qu'il nous refera un gros article la semaine prochaine.
Voilà, sur la question du pillage de la communauté des logiciels libres, c'est un article du Monde Diplomatique paru en janvier qui était en accès libre. Un article un peu fouillé, hein, comme le Monde Diplomatique sait en faire. Donc ça peut valoir le coup d'aller le lire. Next Impact, contrôle parental installé par défaut, les PC sans système d'exploitation épargnés. Un article de Marc Ress.
Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'April s'en félicite, parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait là derrière, mais en gros, il semblerait que les lois qui vont sortir sur le contrôle parental des ordinateurs ne vont pas toucher les ordinateurs sans système d'exploitation, qui sont souvent utilisés pour installer ensuite du logiciel libre. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Il était question déjà de ce genre d'exception, mais normalement, elle aurait été limitée au contexte professionnel. Donc, c'était pas très approprié pour nous tous. Donc là, c'est déjà une bonne évolution. Donc malheureusement, si des ordinateurs sont vendus avec un système GNU Linux préinstallé, il y aura quelque chose en plus. Ce petit contrôle parental, il devra être mis. Donc ça va peut-être embêter les vendeurs, hein, globalement. Mais en tout cas, voilà, on aura un petit peu de choix. C'est quand même positif. Peut-être même que ça favorisera des ordinateurs vendus sans système parce que ça simplifie un petit peu.
Oui, alors je suis pas sûr que ça joue énormément. Il existe des logiciels hein, de contrôle parental qui tournent sous GNU Linux. Par contre, effectivement, s'il faut que les distributeurs le prévoient et l'activent par défaut, c'est du boulot en plus. Mais en tout cas, voilà, c'est comme un avantage énorme par rapport à une situation où il est impératif d'avoir ce genre de système-là. Et pour le moment, les PC préinstallés en Linux, il n'y en a pas beaucoup. Acteur public, la France fer de lance d'une stratégie open source européenne, un article de Thomas Bellarbi.
Alors c'est dans la continuation de ce qu'on a déjà abordé la semaine dernière, mais effectivement avec la présidence de l'Europe par la France, il y a des initiatives qui sont en train d'être lancées. Alors la France on est en pointe, c'est de l'open data, il y a vraiment des discussions sur des logiciels à utiliser, donc des référentiels à mettre en place. C'est plutôt intéressant, donc je pense qu'on va suivre et j'espère le sujet reviendra dans les semaines qui viennent.
Oui, donc ça va être surtout intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner, parce que on en avait parlé et l'initiative est vraiment très intéressante, mais il faut que ça prenne.
Moi, je ne serais pas optimiste, hein, parce que qu'est-ce que ça va donner au niveau européen? Ça va donner que peut-être dans quelques années, il y aura quelque chose.
C'est ça. 01net, publicité en ligne, l'alliance contre nature entre Mozilla et Meta pour protéger les données personnelles. Un article de la rédaction.
Alors, oui, contre nature, parce qu'on s'attend à ce que Mozilla ne travaille pas avec des GAFAM, parce que Meta, c'est donc le nouveau nom de Facebook. Et là, effectivement, ils sont en train de faire évoluer, on va dire, plutôt dans le bon sens, le système de suivi pour les publicités. Donc l'idée, ce serait qu'on ne soit pas suivi de manière aussi personnelle que c'est le cas actuellement. Il n'y aurait pas une identification individuelle très précise. Et donc, il y aurait des mécanismes qui sont assez techniques, hein, assez technologiques. Sachant que par ailleurs, Google aussi est en train de travailler sur ces évolutions-là. Mais ce serait des évolutions qui seraient, comment on dit, perpendiculaires à cette problématique, c'est-à-dire qui pourraient s'additionner, en quelque sorte. On ne sait pas exactement ce qui va être pondu, enfin, en tout cas, je n'ai pas creusé plus que ça. Dans tous les cas, on aura des publicités qui continueront à nous être proposées sur Internet.
Oui, ce qui n'est pas très satisfaisant, et on sait que la Fondation Mozilla va faire des accords avec des GAFAM, ce n'est pas la première fois. Et on a évoqué, il y a une semaine ou 15 jours, toutes les nouvelles méthodes de traçage. Donc cette initiative, elle sent un peu le pâté parce qu'on n'a pas confiance en Meta, en Facebook du tout. On va voir, en tout cas personnellement je suis assez dubitatif.
Alors une seule recommandation à tous, installer des bloqueurs de publicité, au moins un, plus ça fait pas forcément de mal, parce que ça permet un petit peu d'alléger les pages web, et c'est bon pour tout le monde, hein, c'est bon pour votre santé mentale, et c'est bon écologiquement pour l'énergie, les dépenses globalement, du système d'information qu'on utilise. Alors, de quoi on parle cette semaine ?
Eh bien, on va parler d'obsolescence. On va prendre un sujet un petit peu en dehors de l'actualité, ou pas complètement. Ça part d'un article en anglais, d'un site qui s'appelle spectrum.ieee.org. Bionic eyes are now obsolete and unsupported.
Donc, leurs yeux bioniques sont maintenant obsolètes et non supportés. Et effectivement, des yeux bioniques, ça concerne des gens qui ont perdu la vue, auquel on a technologiquement redonné une sorte de vision, quelque chose qui s'en approche en tout cas. Malheureusement, cette solution technologique, elle a des contre-coups, on va dire, dans le temps. Notamment parce que c'était fait par une entreprise, et que cette entreprise, aujourd'hui, elle n'est plus sur le marché.
Plus ou moins, puisqu'elle s'est revendue à une autre boîte, et ils ont décidé que ces dispositifs était une impasse, c'était pas intéressant, ils ont tout arrêté. Donc il y a, je crois, 300 personnes qui ont bénéficié de ces implants, alors qu'ils fonctionnent sur certains types de maladies et de problèmes, mais pas sur les plus courants. Et donc qui leur permettait de voir une image en noir et blanc de 64 pixels de côté, pour le modèle 2, donc quelque chose de vraiment très limité. Mais pour certaines personnes, ça a été très pratique. C'est notamment une utilisatrice qui a pu de nouveau prendre le métro et se réorienter dans les transports publics. Mais d'autres pour qui ça a été inefficace.
Oui, il semblerait même que ça impliquait des opérations chirurgicales relativement lourdes, hein, des heures sur le billard pour qu'on implante des électrodes sur les rétines. Donc quelque chose de pas simple.
C'est 4 heures. Hein. Pour mettre un implant bionique, ça me paraît pas complètement délirant sur une opération chirurgicale. Mais...
Oui, mais si tu veux, voilà, ça reste un truc un peu lourd. Tu sais que maintenant, pour opérer une hanche, ça peut prendre dans ces ordres de grandeur-là. Et effectivement, là aussi, on transforme quelqu'un en un cyborg. Mais là, pour le cas des yeux, c'est que le cyborg, contrairement à une hanche, il a des composants techniques qui sont très avancés. Peut-être même trop, parce que ça ne supporte pas bien le vieillissement. Une hanche qu'on change, on met une nouvelle portion d'os, c'est en général du métal, c'est quelque chose d'assez solide, qui n'a pas beaucoup d'autres technologies, et il ne tombe pas beaucoup en panne. Malheureusement, il y a des choses qui sont tombées en panne, ou tout simplement des accidents, des gens qui ont fait tomber le petit appareil qu'ils devaient transporter avec eux en permanence, par exemple.
Oui, alors la grosse différence entre ce qui est un prototype ou de l'expérimentation, et ce qui est calé, voilà, on fait des prothèses de hanche depuis bien longtemps, je suppose qu'au début, il a fallu expérimenter, en se disant comment ça va tenir dans le temps, est-ce qu'il ne va pas y avoir des problèmes de rejet. Aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose d'assez standard, on connaît bien le sujet, ça a été optimisé pour durer, alors effectivement c'est aussi plus simple à faire, mais on est dans quelque chose qui est bien connu, qui a été testé, etc. Il y a plusieurs fournisseurs qui sont capables de proposer ces choses-là, et après je ne sais pas comment sont documentés tous savoir, ce serait un comparatif intéressant à faire, parce que dans ce cas-là, donc on est effectivement dans un domaine de l'expérimentation, mais c'est aussi que cette expérimentation, elle est entièrement possédée par une entreprise, parce que les experts médicaux qui suivaient ces gens étaient des salariés de cette entreprise. Et le jour où cette boîte a arrêté d'investir et a tout coupé, tout s'est arrêté, et y compris le suivi, y compris la connaissance, et ces gens se retrouvaient avec des implants qui ne marchaient plus et qui sont très compliqués à retirer.
Alors là, tu vas un peu vite quand même, hein. C'est pas qu'ils marchaient plus le jour où ils ont plus supporté. Mais disons qu'en tout cas, à partir du moment où ils étaient plus supportés, la moindre panne, la moindre faille, il n'y avait plus personne au bout du fil pour essayer de relancer le bordel. Et il y a des gens qui se sont retrouvés dans le métro avec plus de vision du tout. Ils n'avaient pas grand-chose au départ, mais là, ils avaient encore moins. Ils étaient perdus, quoi.
C'est une situation bien connue en informatique. Hein. Quand on dit qu'un logiciel n'est plus supporté, ça veut dire que l'éditeur dit « Moi, je ne fais plus rien sur ce logiciel, je ne le connais plus. » Et donc, s'il y a un gros bug qui fait que le truc plante, donc c'est particulièrement sensible sur les logiciels professionnels, eh ben, l'éditeur dit « Vous l'avez utilisé, ça vous risque péril. » Moi, je ne veux plus en entendre parler, je n'assurerai aucun dépannage, aucune expertise, je ne réponds pas à vos questions. Ce logiciel-là n'est plus supporté.
Parenthèse, mais c'était un des sujets dans la série Ghost in the Shell, pas dans le film, mais dans la série Ghost in the Shell, les cyborgs très avancés dans ce monde futuriste, ils avaient des problèmes avec leurs pièces qui n'étaient plus supportées, qui étaient obsolètes, et comme elles étaient connectées avec le reste de leur corps, il y avait des grosses difficultés à les faire évoluer, ça n'évoluait plus, et donc ils se retrouvaient avec vraiment du matériel qui ne pouvait plus être changé, ou même facilement réparé. Et là, effectivement, les gens qui avaient des implants dans leurs yeux, ils étaient un petit peu victimes du même genre de système, parce que même si l'entreprise avait continué à faire des évolutions, les prochaines évolutions, vraisemblablement d'après l'article, ce n'était pas de continuer à mettre des implants dans les yeux, mais d'implanter donc plus en amont, on va dire plus près du cerveau. Quelque part, cette évolution faisait que eux-mêmes, leur technologie, elle était complètement obsolète, mais pourtant, l'installation était encore là.
Oui, et du coup, c'est pas rentable de maintenir un système obsolète pour quelques centaines de personnes. Dans ce cas-là, l'article relate qu'il n'y a eu aucune communication, c'est-à-dire que le jour où l'entreprise a mis pas tout à fait la clé sous la porte, mais a décidé de tout arrêter, on leur a envoyé aucun mail, aucun courrier, rien du tout. Donc, ce qui veut dire aussi qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Il y a eu des autorisations public, et notamment aux États-Unis, l'administration qui s'occupe de tout ce qui est médicaments, trucs médicaux, etc. Mais ça veut dire que ces autorisations-là, elles n'ont pas intégré la prise en compte des individus en disant vous entrez dans un protocole expérimental, voilà les risques, voilà le cadre dans lequel vous allez être, et voilà en gros qu'est-ce qu'on peut vous garantir si ça se passe mal. Ça peut être également des infections, hein. Ce système était mal reçu par un certain nombre de gens. On pourrait espérer que sur un truc expérimental comme ça, on puisse avoir un vrai cadre dans lequel les cobayes sachent à quoi ils s'engagent et quels sont les risques. Or, là, c'est des gens qu'on a balancés. On leur a dit, même pas merci, même pas au revoir. C'est juste, on les a ignorés. Ouais.
Et rappelle-toi, on avait abordé le sujet à l'époque, ça nous avait pas mal choqué. Mais il y avait eu un cas de pacemaker qui contenait de l'informatique et qui pouvait être hacké. Et il y avait, il me semble, une informaticienne, une bidouilleuse, qui avait travaillé sur le truc pour essayer de corriger un peu les failles, mais qui s'était retrouvée confrontée avec l'entreprise. Donc,
elle voulait accéder au code source de son propre pacemaker, parce qu'elle avait des problèmes cardiaques à la jeune, et on lui avait dit non. Et je crois qu'elle voulait y accéder parce qu'elle avait vu justement ce problème de hacking possible d'un pacemaker. C'était pas le sien, mais elle s'est dit, si ça peut marcher sur un autre, je veux quand même savoir comment le mien fonctionne, et m'assurer que c'est pas n'importe quoi.
Et donc là, je trouve qu'il y a un modèle qui est intéressant à creuser, c'est le modèle de l'innovation. L'innovation dirigée, contrôlée, et même pire que ça, possédée par des entreprises, c'est pas un modèle qui est particulièrement intéressant pour notamment des petites communautés. On n'est pas à l'abri, mais même des grosses communautés, moi je pense Android. Android, c'est possédé par Google largement, et même si c'est du logiciel libre, sur ton téléphone, quand il n'y a plus de mise à jour, t'es un petit peu tout nu, quoi. T'es un petit peu laissé tomber.
Oui, tout à fait. Et puis, si on sort du domaine de l'informatique, dans l'actualité, on a tous entendu parler d'Orpea, donc ce groupe qui gère des EHPAD et qui a radiné sur l'argent et ce genre de choses. On a évoqué ici, de temps en temps, aux États-Unis, la crise des opiacés, où des médicaments antidouleurs extrêmement addictifs ont été mis en place, et où la surmortalité à cause des drogues se chiffre en dizaines de milliers de personnes. On a parlé aussi du 737 MAX, qui est l'avion de Boeing, où la sécurité a été bâclée et où il y a eu 2 crashs avant que l'avion soit cloué au sol pendant plus d'un an. Toutes ces histoires démontrent que les entreprises privées, qui sont cotées en bourse, si elles peuvent faire plus d'argent en tuant des gens, elles le font. Enfin, en gros, ce système de gouvernance et de régulation ne nous met absolument pas à l'abri de cette violence du système. Et sacrifier des gens, si ça fait du profit, ça se fait. Y compris dans nos pays développés où on pourrait dire, éventuellement, ça touche que les pauvres ailleurs qui vont travailler dans des conditions difficiles, mais nous, on est à l'abri. Mais non, même pas. Et donc, s'ils sont capables de faire du profit en tuant des gens, tout le reste, qui sont moralement moins condamnables que détruire des gens, on peut s'attendre à ce qu'ils aient pas plus d'état d'âme, voire moins d'état d'âme à le faire, ce qui démontre cet impératif à maîtriser notre informatique et à surtout s'assurer que ces boîtes privées, qui ont le profit comme ligne de mire, ne soient pas sans contrôle.
J'espère que le contrepoint et le contrepoids de ces entreprises, notamment, c'est les communautés. Les communautés, par exemple, de makers, il y a des gens qui fabriquent eux-mêmes leurs prothèses, qui fabriquent eux-mêmes dans des labos, dans des Fab Labs, par exemple, avec des imprimantes 3D, et qui partagent entre eux des connaissances sur leurs prothèses, des mécanismes et des évolutions. Et on peut espérer que ce contrepoint-là soit mieux pris en compte, c'est la science ouverte. Et je sais que, par exemple, on avait abordé aussi, il y a eu un vaccin contre Covid-19 qui a été libéré, qui a été fait déjà avec peu d'argent par des gens dans un coin. Il avait été supporté, il me semble, c'était une entreprise qui faisait du whisky, qui leur avait donné un peu de fric pour continuer à développer le vaccin. Et donc, on a des outils et on a des moyens de faire des choses sans les États, sans les grosses entreprises, sans les GAFAM. Il y a vraiment des communautés entières dans le monde qui peuvent essayer de faire contrepoint. Hein.
Oui, alors moi je pense que sans État et face à des entreprises multimilliardaires, ça restera du bricolage, qu'on ne peut pas se passer d'avoir un soutien légal, institutionnel, et c'est pour ça que l'April fait du travail institutionnel, en tout cas c'est comme ça que moi je le comprends. Et on l'a vu dans plein de domaines, dans le domaine des semences par exemple, où les lois ont changé de telle sorte que échanger des semences est devenu illégal, revendre des semences est devenu illégal parce que par défaut elles sont toutes bloquées, et quand en face tu as des lobbying et un poids financier et d'influence énorme, ton alternative peut être rendue illégale instantanément. Dans le logiciel libre, on a eu ces menaces-là avec le brevet logiciel. On l'a vu encore récemment avec cette histoire de système de contrôle parental installé par défaut, limite à liberté, même si l'objectif est louable, on peut le faire de multiples façons. On a toutes les menaces sur le fait de retirer sur Internet les contenus terroristes en une heure, etc., qui font que tout ce qui est associatif, qui n'a pas les moyens de payer des gens toute la nuit à surveiller le truc et à réagir au quart de tour. Tous ces trucs-là deviennent plus possibles. Et donc, pour moi, si on n'a pas un cadre légal, législatif et contrôlé, on est foutu de toute façon.
Bon, sur cette note d'optimisme, Luc, que tu sais nous sortir de temps en temps, je te propose, on en rediscute la semaine prochaine. Je te dis bonne semaine.
Oui, bonne semaine à tous. Salut.
Salut.